Et vraiment, quand vous avez comme ça, vous sentez quelque chose qui coince dans votre vie ou c'est un défi, proclamez les noms de Dieu sur ce domaine de votre vie en particulier. Quand vous êtes dans la louange, quand vous sentez des choses comme ça, voilà, qui vous empêchent de louer, proclamez le nom de Dieu sur ce défi en particulier. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? En fait, on exerce la foi. On exerce la confiance en Dieu. Et on est en train de dire, ouais, comme Claudia l'a exprimé, tu es plus grand que ce qui là essaye de ce par quoi je me sens écrasé. Et du coup, il y a des choses qui se passent. Parce qu'on exerce la foi. Et la foi, c'est du concret. Amen. Jeudi dernier, avec le groupe avec lequel on se réunit le matin pour prier, on m'a demandé des nouvelles de mon père. Alors que vous sachiez que chez mon père, la tumeur a repris. Hein, ça fait plusieurs semaines maintenant. Plus d'un mois. Le combat continue. Ça a été un choc au départ, en particulier pour lui, mais pour nous tous, pour mes parents en particulier. Voilà, et puis, mais s'il y a eu une baisse de morale à un moment, voilà, mon père est un battant, donc il continue de se battre. Voilà, alors que continuez de prier. Et on me posait la question, mais est-ce que tes parents sont chrétiens? Alors mes parents, ils ne sont pas chrétiens au sens de nés nouveau, ils cheminent. Voilà, mais je vois, alors bien sûr, seul Dieu sont les cœurs, mais je vois que je ne peux pas parler de nouvelle naissance les concernant, mais je peux dire qu'ils sont de culture chrétienne. Mon père, c'est quelqu'un, voilà, c'est 13 frères et sœurs, grande famille catholique, donc habitué à aller à la messe tous les dimanches, lui se sentant plutôt obligé, forcé de venir s'asseoir sur les bancs de l'église tous les dimanches. Et lui, c'est quelque chose à un moment qu'il a rejeté en bloc. Et jusqu'à rejeter finalement, quelque part, les choses de Dieu. Et la foi, on ne pouvait pas vraiment en parler jusqu'à ce qui s'est passé dernièrement dans sa vie. Et c'était parce qu'on venait toucher à quelque chose de douloureux chez lui quand on parlait de la foi. Donc, valait mieux laisser ça dans l'intimité. Il y avait quelque chose de tabou, parce que si on y touchait, ça fait mal. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui se sont senties forcées par l'Église, qui ont ressenti dans l'Église, je parle de l'Église en tant qu'institution, et que ce soit les églises traditionnelles, mais voilà, toute l'église chrétienne en tant qu'institution, y compris les évangéliques. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu ressentir dans l'église quelque chose où on essaye de contrôler leur vie. Cette attitude contrôlante de l'église. Et effectivement, c'est quelque chose qui fait que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre carrément de parler de Dieu. Parce qu'il y a cette attitude. Ça fait plusieurs dimanches, lorsque j'apporte le message, que je parle de la dépendance à Jésus. Et dans quelle mesure, dans l'Église, quand voilà, on sent cette chose en nous qui essaye de contrôler, dans quelle mesure on est en train de dépendre de Jésus. Et au fond, c'est quoi cette attitude de contrôle? Ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et quelle est l'attitude en Jésus qui vient contrer cela, qui est contraire à cela? Je disais lors du dernier message que Dieu, il met des désirs de vie en nous. Il met ses désirs à lui. Et ils sont là pour se déployer. Mais il y a quelque chose dans le monde, l'esprit de ce monde, lui, il veut étouffer ses désirs. Il veut les empêcher de se déployer. Il veut empêcher cette vie de Dieu de se déployer. Et bien, qu'il y a derrière cette attitude de contrôle, c'est pareil. Sauf que là, ça ne vient pas de l'extérieur, si on veut, c'est quelque chose en nous. Il y a le monde et il y a la chair. Et là, c'est plus lié à la chair. Je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais je voudrais prendre un texte ce matin qui parle de ces différentes attitudes. C'est dans Marc, le chapitre 3, versets 1 à 6, et je vais vous le lire. Nous sommes à Capernaum. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. c'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, il promena sur eux un regard de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main !» Il la tendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens, sur les moyens de le faire périr. On voit dans ce moment de la vie de Jésus, alors déjà nous sommes à Capernaum, c'est un village au bord du lac de Galilée, au nord du lac de Galilée, un village de pêcheurs où il y a à l'époque de Jésus à peu près 1500 habitants. C'est le village où Pierre vivait. On a retrouvé les restes d'une maison où on pense que ça pourrait être probablement la maison de Pierre parce qu'il y avait un octogone au centre de cette maison. Un octogone, ça a 8 côtés. 8, c'est le chiffre du Messie. 7, c'est les chiffres de Dieu. Plus 1, ça fait 8. Dans la tradition juive, c'est le chiffre du Messie, 8. Donc c'est Jésus. Et la manière dont on construisait les églises, après ça, c'est en fait, ce sont des restes qui datent à peu près du 2e, 3e siècle. C'était autour d'un octogone. Et c'était à partir de maisons, parce qu'on se réunissait dans les maisons. Donc, à Capernaum, où Pierre a habité, probablement que l'église qui s'est construite, enfin le bâtiment d'église qui s'est construite, c'était à partir de la maison de Pierre. La maison de Pierre où Jésus est venu loger quand il a quitté Nazareth. Et donc ce jour-là, alors ça c'est pas capital pour la prédication, mais comme je vous avais dit que je vous amènerais des éléments à partir du voyage, en voici un. Et donc là, dans ce passage qui nous intéresse, Jésus vient dans la synagogue de Capernaum. Cette synagogue, alors c'était pas comme ça à l'époque, hein, c'est les restes d'une synagogue à l'époque, de la synagogue à l'époque byzantine, c'est à peu près le 4e siècle, mais donc c'est sur les restes de la synagogue à l'époque de Jésus que cette synagogue s'est construite. La synagogue, en fait, c'est quoi ? C'est pas comme le concept de nos bâtiments d'église, de nos vies d'église. La synagogue, c'est un lieu où on vient parler de la vie. On parle de tout. On parle de tout. On parle pas que de Dieu. On parle de tout. Mais parce que Dieu, il est la vie, ben voilà, quand on parle de tout comme ça... Donc c'est un lieu de rencontre, en fait, la synagogue. C'est un lieu où on se rencontrait, où on parlait de tout. Et c'est pas comme nos églises à l'occidental, où il y a quelque chose où c'est sacré. Où, voilà, on est là pour parler de Dieu, point. Bon, nous, c'est pas tout à fait ce que l'on vit quand, voilà, on a ce temps autour du café. Mais pour dire que entre ce qui se passe dans la synagogue et ce qui s'est passé avec l'histoire dans les églises, c'est pas la même chose. Donc pourquoi les pharisiens attendent Jésus au tournant? Ils l'attendent au tournant parce que donc c'était marqué, voilà, ils allaient voir ce qu'il allait faire avec cet homme à la main paralysée, c'était afin de pouvoir l'accuser. Ce qu'ils ont vu qui était Jésus. Jésus, dans ce village de Capernaum, il a fait plusieurs miracles. Il a fait pas mal de guérisons, pas mal de délivrances. Et en particulier dans cette synagogue où à un moment, il y avait un homme qui était possédé, qui est venu, et là, Jésus l'a délivré. Et tout le monde s'est dit, waouh, mais de quelle autorité, d'où il tire ça, quoi, ça, quelle est son autorité pour que... Et puis il n'enseigne pas comme nos autorités religieuses. Waouh, beaucoup réagissent comme ça. Mais les pharisiens, eux, ils ne réagissent pas comme ça. Et peu de temps avant ce moment, peut-être même le jour même, un jour de Shabbat, ils ont vu Jésus qui laisse ses disciples arracher des épis de blé dans un champ. Or, c'est un jour de Shabbat. Et selon la tradition juive, selon leur tradition, la tradition de ces pharisiens, quand on arrache un épi de blé, c'est l'équivalent de moissonner, de couper un épi de blé avec une faucille. Et quand on fait ça, on n'a pas le droit de moissonner un jour de Shabbat. Là, c'est la loi de Dieu qui le dit, c'est dans Exode, parce que c'est un jour de travail. Mais pour les pharisiens, eux, ils disaient qu'ils comprenaient qu'arracher un épi de blé, c'était pareil que moissonner. Donc du coup, pour eux, leur tradition, c'est l'équivalent de la loi, c'est l'équivalent de la loi de Dieu. Et donc du coup, quand Jésus, il laisse faire ça, Mais il transgresse la loi de Dieu. Honte à lui. Pourquoi Jésus il fait ça? Il fait ça parce qu'il voit que ses disciples, ils ont faim. Et puis pour lui, ce n'est pas un problème d'arracher des épis de blé. Il ne leur a pas dit de moissonner, il leur a pas dit de moissonner un jour de Shabbat. Donc Jésus, il est très au clair. Et donc, mais voilà, ils ont vu qu'ils ont faim. Donc lui, Jésus, voilà, il les laisse répondre à ce, il leur permet de répondre à ce besoin. Il est tout à fait en accord avec la loi. Mais les pharisiens, ils ont vu que Jésus, c'est quelqu'un qui fait du bien jusqu'à transgresser leur tradition, qui pour eux est l'équivalent de la loi. Et justement, dans cette synagogue, il y a un homme qui a une main paralysée. Or, selon leur tradition, on ne guérit quelqu'un le jour du Shabbat seulement s'il est en danger de mort. Puis cet homme, il n'est pas en danger de mort. Il n'est pas en danger de mort. Et voilà, il a sa main paralysée sans doute depuis un certain temps, plusieurs années, on ne sait pas. Il peut bien attendre un jour de plus. Ça peut bien se faire un autre jour que le Shabbat. Parce qu'on ne respecte pas les règles sinon. On ne respecte pas les conventions. On ne respecte pas la tradition. Et donc, voilà, cet homme, il est là. Et pour eux, il n'est pas en danger de mort. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de cet homme? Un village de 1500 habitants. Ça veut dire que cet homme, il était là depuis... Ils le connaissent, ils le côtoient, ils savent qui c'est. Quel regard ils ont sur lui pour dire ces choses-là? Ils se réfèrent à la loi, les pharisiens. Ils s'appuient sur la parole. Et dans quel moment, dans les Écritures, il est question de quelqu'un avec une main qui est paralysée? C'est un moment avec un roi qui s'appelle Jéroboam. Jéroboam, c'était un dictateur, roi d'Israël, qui à un moment, lui, il n'était pas content que Israël devait aller à Jérusalem pour pouvoir adorer le Seigneur, parce que là, c'était le royaume de Juda, et c'était divisé en deux. Et lui, il voulait, voilà. Donc du coup, ce qu'il a fait, il a mis sur pied un hôtel dans une ville qui s'appelle Bethel et il a organisé sa religion parce que c'est lui qui disait qui étaient les prêtres. Normalement, dans la loi de Dieu, ceux qui peuvent être prêtres, ce sont ceux qui descendent d'Aaron et ce sont ceux qui sont issus de la tribu des Lévites. Et donc lui, c'est lui qui disait qui était prêtre dans les autres tribus, c'est lui qui décidait. Donc c'était un dictateur qui rassemblait le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et un jour, Dieu lui envoie un prophète pour lui dire, mais voilà, va y avoir un descendant de la maison de David, Josias, qui fera détruire tous tes autels, tout ton système qui le détruira. Et Jéroboam n'est pas content, il est en train de célébrer le culte à ce moment-là. Le roi n'avait pas le droit de faire ça, c'était les prêtres qui devaient le faire. Il est en train de célébrer le culte à ce moment-là, et Jéroboam n'est pas content. Il pointe son doigt vers ce prophète et dit à ses hommes, saisissez-le! Et à ce moment-là, hop, sa main se raidit, elle est paralysée. Il la ramène vers lui et il ne peut plus. Dieu a maudit Jéroboam. Il a paralysé sa main. Voilà la référence qu'on a dans les Écritures. Donc ça se trouve, cet homme qui a la main paralysée à Capernaum. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Il est maudit par Dieu. C'est le jugement de Dieu sur sa vie. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là? On a une confrontation spirituelle. L'atmosphère est tendue, hyper tendue. C'est une confrontation entre deux puissances. Entre cet esprit que manifestent les pharisiens, cet esprit de contrôle, cet esprit religieux, cet esprit légaliste, et entre le Saint-Esprit que Jésus manifeste. C'est super tendu. C'est pas le centre de ce texte, c'est pas cet homme. Cet homme, il est l'objet d'un enjeu, en fait, entre ces deux puissances. Et c'est quoi cet esprit religieux chez les pharisiens? Finalement, c'est un esprit qui juge. C'est un esprit qui juge et qui condamne sans aimer, qui dit, mais ça se trouve, il l'a mérité, quoi. C'est ce même esprit qu'on peut avoir quand je lisais le témoignage d'un monsieur qui a eu un accident il y a plusieurs années et qui depuis est aux services sociaux et donc qui cherchait un logement. Le problème, c'est que c'est à la Chaux-de-Fonds. Le problème, c'est que toutes les gérances, quand il est allé dans une gérance, qu'on lui a répondu, écoutez, monsieur, nous, on ne s'occupe pas des personnes qui sont aux services sociaux. On n'a rien pour eux. Et cet homme disait, mais à quel point il s'est senti discriminé. Et ces jugements de valeur, je ne sais pas si la personne qu'il a eue en face de lui, vraiment, elle le discriminait, on n'en sait rien. Mais ces jugements de valeur, ils sont en nous. Ils sont dans notre société. Comment réagit un patron quand il voit un Érythréen en Suisse, quand il voit un Érythréen venir chercher du boulot? Voilà, il y a toute cette situation et il n'y a pas besoin d'être dans les églises pour avoir cette attitude de jugement. Quand nous sommes en train de critiquer, quand on critique quelqu'un, pas par rapport à ce qu'il fait, pas quand on critique ce qu'il fait, mais quand on critique qui il est, c'est cet esprit-là qui est à l'œuvre. Quand on juge l'autre à l'intérieur de nous, sans être dans l'amour, parce que bien sûr, Jésus, il nous dit de juger, mais il nous dit de juger les actes. Et quand on juge la personne, de toute façon, il ne changera jamais. Et on le fait avec les gens que l'on aime en particulier. Parce que les gens que l'on aime, on croit les connaître par cœur. Moi, je pense à ma femme, à mes enfants. Je suis depuis des années avec eux. Donc je me dis, de toute façon, il est comme ci, il est comme ça. Elle est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'elle réagit. De toute façon, comme si je la connaissais par cœur. Mais je ne les connais pas par cœur. C'est seulement Dieu qui sonde les cœurs. Et vous voyez que cette attitude, elle est en nous. Donc cet esprit que les pharisiens manifestent, c'est un esprit qui juge. Et pourquoi c'est là? Jésus le dit. Il parle, ce texte parle de l'endurcissement du cœur des pharisiens. Dans notre cœur, il y a quelque chose. Endurcissement, ça veut dire aussi comme s'il y avait une peau épaisse sur le cœur. Il y a quelque chose, une épaisse couche sur le cœur de ces pharisiens qui fait qu'ils ne peuvent plus voir cet homme. Ils ne peuvent plus considérer les besoins de vie et d'amour de cet homme. C'est comme une épaisse couche de ténèbres qui obscurcit leur regard. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que vit cet homme. C'est comme s'ils s'étaient coupés de lui. L'esprit religieux, c'est quelque chose qui nous coupe des autres. Ça nous coupe des autres. Et en fait, ce qui est fou dans ce passage, c'est qu'on pourrait se dire, mais quand Jésus, lui, il répond à la confrontation. Lui, il a choisi son camp. Et quand il fait venir cet homme, il lui dit d'étendre sa main, et là, il guérit sa main. On pourrait se dire, ces pharisiens, ils vont être touchés. Ils vont se dire, waouh, il a guéri cet homme, même si c'est un jour de Shabbat, il a guéri cet homme. Sa vie va vraiment être différente. Mais non, même pas. On ne guérit pas un homme comme ça qui n'est pas en danger de mort, selon nous, le jour du Shabbat. On respecte la règle. On respecte la règle. Qu'est-ce qui nous dit que... Il y a ça où nous, quand on vient se dire aussi, mais la louange, nous devons la vivre de telle manière. On doit chanter de telle manière. Et puis c'est louange, message, sainte scène. Et puis la sainte scène, on la fait de cette manière. Mais on n'en sait rien. Ce n'est pas marqué dans la Bible. La manière dont nous vivons nos cultes, c'est issu de la tradition. Vous savez que la plupart des écrits dans la Bible qui parlent de la manière de vivre un culte, ce sont les écrits de Paul. Mais sauf qu'on a juste ce que Paul dit. On n'a pas, et souvent il répond à des églises, et on n'a pas l'autre partie. C'est comme si vous aviez une conversation téléphonique où vous avez seulement ce que dit Paul. Vous ne savez pas à l'autre bout du fil ce qui se dit. Donc c'est à partir de trous aussi. On imagine que ça se passait comme ça, on essaye de comprendre. Voilà. Donc il y a plein de choses qui se vivent dans notre manière de vivre le culte qui ne sont pas nécessairement bibliques, mais auxquelles nous nous attachons parfois et auxquelles cet esprit religieux nous attache. Il nous fait dire, voilà, c'est ça le plus important. Et ça nous va nous faire jusqu'à oublier les autres. Et d'où il vient cet esprit? Pourquoi est-ce qu'il est là? En fait, c'est quand cet esprit, il veut, justement, il nous dit, mais ce qui est le plus important, c'est cette règle, c'est de vivre les choses de cette manière. Et on est tellement attaché à cette manière de vivre qu'on en oublie les autres. En fait, c'est un esprit qui veut tout contrôler. Nous avons peur et nous allons mettre nos sécurités dans ces manières de faire. Et ça, c'est le fruit de cet esprit. Nous ne marchons pas dans la confiance en Dieu, dans ce cas-là. Mais vraiment, nous nous sécurisons au travers de ce que nous, nous établissons au travers de nos traditions. Et dans l'Église, il y a toujours eu ces deux courants. Toujours. Dans les temps de réveil, ça se manifeste particulièrement. Où il y a toujours un courant de l'Église qui va rester dans quelque chose de légaliste. C'est-à-dire, ah, mais ça, c'est pas dans la parole. La preuve, hein, Jéroboam, voilà, c'est marqué. Hein. C'est que cet homme, voilà, il était maudit par Dieu, vous voyez. Mais c'est pas ce que dit la parole. En pensant s'appuyer sur la parole, voilà, on va justifier quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et il y a toujours eu ce courant, en particulier dans les réveils, où on se laisse guider par la vie de l'Esprit, qui quelque part nous dérange, qui vient déranger notre chair. Finalement, cet esprit religieux, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? Il est en train de lui dire, « Hey, tu ne contrôles pas ma vie. Tu la laisses la gérer. Tu la laisses la contrôler. Tu me laisses la contrôler. Je ne veux pas de ta manière de faire. » Et sous couvert de, « Ah ben non, moi j'ai la foi, moi je suis le Seigneur, j'applique ses commandements. » Je viens à l'église tous les dimanches. Sous couvert de cela, en fait, nous sommes, par cet esprit, dans une attitude rebelle à Dieu. Parce que quand nous ne laissons pas, entraîner là où l'esprit veut nous entraîner, par crainte, par peur, et que du coup on contrôle les choses, bah, du coup, en fait, on refuse cette vie de Dieu et on refuse la manière dont Dieu veut diriger les choses. Et voilà toute cette attitude dans laquelle ces pharisiens sont. Et quelle est l'autre attitude? Quelle est l'autre attitude que Dieu veut nous donner? Parce que cette attitude religieuse, quel est son but? C'est que la vie de Dieu, elle ne puisse pas se déployer. C'est que la vie de l'Esprit, elle ne puisse pas grandir en nous. Et il y a une autre attitude qui fait que là, on dépend vraiment de Jésus. Parce que quand on est dans cette attitude religieuse, on ne dépend pas de Jésus. Et quand je parle d'attitude religieuse, ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est partout. À partir du moment où quelque chose où nous, on essaye de contrôler les choses, voilà, c'est dans la chair. C'est dans la chair. Et l'autre attitude qui fait que voilà, Dieu veut déployer cette vie en nous, qui vient contrer cet esprit religieux, cet esprit légaliste, c'est l'esprit de grâce. Et c'est cet esprit de grâce que Jésus manifeste. C'est cet esprit de grâce que Jésus manifeste quand il vient, il prend cet homme et lui dit, toi, viens au milieu. Lève-toi, viens au milieu. Cet homme qui, ça se trouve, était négligé dans ce village de 1500 habitants, tout le monde le connaissait. Mais comment est-ce qu'on considérait ses besoins? Jésus, lui, il voit que cet homme, il est en train de mourir. Bien, ce n'est pas un danger de mort immédiat, mais il voit que la mort à petit feu qui s'attaque à cet homme. Cet homme qui a une main qu'il ne peut pas utiliser dans une société où on a besoin de ses deux mains la plupart du temps pour assurer sa subsistance. Parce que voilà, c'est une société où c'est surtout le travail manuel qui est important. Et cet homme, il lui manque une main. Et comment il se sent, cet homme, dans son identité? Un homme qui ne peut pas travailler. Souvent, les personnes qui sont au chômage, elles le témoignent, ça. Comment le problème, c'est pas seulement de ne pas avoir de travail qui fait que tu remplis ton assiette. Le problème aussi, c'est qu'on se sent amoindri. on ne se sent pas comme les autres. Et surtout quand on est un homme, parce que les hommes, ils sont attachés au fait de travailler. C'est ce que, enfin voilà, c'est leur responsabilité. Il y a quelque chose comme ça dans l'identité de l'homme. Et ça fait d'autant plus mal, on se sent diminué. Et cet homme, sans doute, qui se sent diminué, il meurt de cela. Il meurt de cela. Et il meurt du jugement qu'on peut porter sur lui. Il meurt du jugement. Et Jésus, il voit tout ça. Parce que Jésus, il voit cette portée de la mort. Il voit ce que fait la mort. Et Jésus, il est là pour la vie. Qui est-ce qui respecte la loi de Dieu dans ce moment? Ce ne sont pas les pharisiens. C'est Jésus. Jésus qui rappelle que c'est quoi le premier commandement de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux commandements les plus importants. Il y a 613 commandements dans la loi juive, dans la loi de Moïse. 613 commandements. Et quand c'est le respect de la vie qui est en jeu, on laisse tomber les 611 autres commandements. Et c'est ça que Jésus dit. Ce qui importe le plus, c'est la vie de cet homme. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le maître du Shabbat ». Quand il y a une question de vie ou de mort, et là, il voit vraiment, il y a une question de vie ou de mort pour cet homme. Pas selon l'échelle, pas selon pas dans la perspective des pharisiens, mais il voit la mort à l'œuvre dans cet homme. Là, voilà, ce qui compte le plus, c'est de respecter la vie. En fait, il est fidèle à l'esprit de la loi. C'est l'esprit de grâce. C'est l'esprit de grâce. Et du coup, il fait venir cet homme. Et là, il promène ses regards. Il regarde les pharisiens quand il les fait venir. Vraiment, il répond à la provocation. Et il sait où ça va l'amener. Il sait cette confrontation où ça va l'amener. Il sait que ça va l'amener vers la souffrance et la mort physique. Mais il ne recule pas, parce qu'il voit la puissance de mort qu'il y a derrière cet esprit légaliste, cet esprit religieux. Et il fait venir cet homme et il promène ses regards indignés. Il y a des textes qui parlent d'indignation. Et là, il est question de la colère de Jésus. Jésus, il est en colère quand il voit ces hommes. Il est en colère contre quoi? Contre ces hommes en particulier? Il est en colère contre cet esprit. Contre cet esprit et la manière dont ces hommes collaborent avec cet esprit. Est-ce que Jésus, quand il est en colère contre ces hommes, il ne les aime pas? Si, il les aime. C'est justement pour ça qu'il est en colère. Parce qu'il les aime, il est attristé de l'endurcissement de leur cœur. Et ça, c'est aussi Jésus, il juge pour aimer. Où il ne juge pas sans aimer. Et ça, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé de formidable en Jésus, que j'ai toujours demandé comme attitude. Moi, quand je juge mes enfants, quand je discipline mes enfants, je peux vous dire, je ne me sens pas toujours dans l'amour. Je ne sais pas vous comment ça fait. Quand en tant que pasteur, ça ne m'est pas beaucoup arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, si j'ai à discipliner quelqu'un, si j'ai à exercer la discipline, dire non, ça joue pas à reprendre, dans quelle mesure je vais me sentir dans l'amour? Il y a des fois, justement, il y a cette colère en nous qui va faire qu'on va la projeter sur l'autre. Et là, on n'est pas dans l'esprit de grâce. Et moi, ce que je trouve fort chez Jésus et que je demande que ça m'habite toujours plus, c'est cette capacité qu'il a à juger, à reprendre, tout en étant dans l'amour. Et je suis sûr, il le sent à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça qu'il est peiné à ce point. Et sa colère, qu'est-ce qu'il en fait? Sa colère, il ne vient pas la projeter sur ses pharisiens. Il ne va pas leur dire « Mais vous avez vu ce que vous faites ? Non, mais vous êtes nuls ou quoi ? C'est pas vrai !» Non, sa colère, en fait, l'énergie de sa colère, il l'utilise pour dire à cet homme « Étends ta main !» Sa colère, il la tourne contre quoi ? Il la tourne contre cet esprit. Sa colère, il la tourne contre quoi ? Contre la mort et la maladie. C'est ça qu'il est en train de faire. Pas contre les hommes, mais contre cette puissance qui est à l'œuvre. C'est ça qu'il combat. Et là, et quand il dit « Tends ta main », Jésus est en train de dire à cet homme « La malédiction de la loi sur toi, mon gars, c'est fini. » Vous savez ce que Dieu a dit quand l'homme a chuté dans le jardin d'Éden ? Il a dit que nous allons les chasser parce que maintenant ils sont comme nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont comme nous par rapport à la connaissance du bien et du mal. Donc, que l'homme n'étende pas sa main vers l'arbre de vie. C'est le même verbe. Que l'homme n'étende pas sa main vers l'arbre de vie. Ça, c'est la malédiction de la loi. Et c'est sous cette malédiction que les pharisiens y restent. C'est sous cette malédiction que l'on reste quand on est dans cet esprit légaliste, quand on veut tout contrôler. Et Jésus est en train de lui dire, étends ta main vers l'arbre de vie. C'est moi l'arbre de vie, étends ta main. Et là, cet homme étend sa main et sa main ressuscite. Sa main de nouveau, elle bouge. L'esprit de grâce, c'est un esprit aussi de foi. Jésus compte sur la grâce du Père. Parce que justement, lui, il n'est pas dans cet attachement aux règles. Il est dans l'attachement à la vie. Et du coup, il peut faire confiance au Père et se dire, mais le Père, il aime cet homme et il va le guérir. Et c'est ce qui se passe. Comment est-ce qu'on... Nous avons le choix. Nous avons le choix. Nous avons le choix entre ces deux attitudes. Quand on entre, quand on veut entrer de plus en plus dans la vie de l'esprit, quand on désire que cette vie de l'esprit, elle prenne toujours plus de place, ça suscite des craintes. Ça dérange. Ça dérange des choses en nous. Et on peut réagir de manière, avec une attitude qui est légaliste, qui est religieuse. Quand en fait ça revient, rejoint des craintes et que du coup, on veut contrôler les choses de cette manière, bien sûr, il y a des choses auxquelles il faut rester attaché. Il ne faut pas que les choses se fassent n'importe comment. Mais qu'on soit vraiment conscient que voilà, la chair veut empêcher l'esprit de se déployer. Qu'est-ce que l'on choisit de vivre ? Qu'est-ce que nous choisissons de vivre ce matin, mes amis ? Est-ce que l'on veut être toujours plus dépendant de Jésus ? Et si l'on veut être dépendant de Jésus, c'est en laissant cette vie de l'esprit se déployer. Comment est-ce que cet esprit de grâce, il va prendre plus de place en nous ? Comment il va prendre plus de place en nous ? Et du coup, laisser le terrain libre à l'esprit. À chaque fois que j'ai cette attitude religieuse qui se manifeste en moi, à chaque fois que j'ai, voilà, je dis, ah, mais tiens, on ne devrait pas faire comme ça. Il faut, Yaka, Faucon, tu dois. D'où est-ce que ça vient ? D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que j'ai une crainte comme ça ? De quoi j'ai peur ? De quoi j'ai peur ? Quand il y a quelque chose de la vie de l'esprit qui se manifeste, de quoi j'ai peur ? Et là, quand on reconnaît cette attitude légaliste en nous, et on est tous imprégnés de cela. On est tous imprégnés de cela. Et quand on le reconnaît en nous, et que du coup on vient avec ça devant Dieu et on dépose cela, dit « Je ne veux pas de cette attitude, je refuse cette attitude dans ma vie. Et moi ce que je veux, c'est ton esprit de grâce, c'est avoir un cœur ouvert. Moi ce que je veux, c'est pas être attaché à la règle, mais c'est être attaché à la vie. » Et là du coup, cette attitude, elle part. Parce que cette attitude, cet esprit religieux, il n'a plus de contrôle sur nous. La chair a été crucifiée à la croix. Amen. Et nous n'avons pas à lui laisser de terrain. Bien sûr, il y a des choses dans la vie de l'esprit qui font peur. Il ne s'agit pas de vivre n'importe quoi. Mais la vie de l'esprit, c'est quoi ? C'est pas seulement vivre des manifestations. C'est pas seulement chanter des alléluia et voilà, être dans quelque chose aussi où il y a beaucoup d'émotions. La vie de l'esprit, c'est aussi laisser notre caractère changer par Christ, que notre caractère il soit changé à l'image de Jésus. C'est ça la vie de l'esprit, c'est tout ça la vie de l'esprit. Mais ça dérange cette puissance. Alors, tant mieux qu'elle soit dérangée. Tant mieux qu'elle soit dérangée. Mais nous, ce que nous voulons, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la vie de l'esprit? Est-ce que tu veux que cette vie de Dieu se déploie en toi? Est-ce que tu veux que cet esprit de grâce se déploie en nous? Est-ce que nous voulons, dans notre église, que cet esprit de grâce se déploie en nous? Moi, ce que je veux, c'est aimer comme Jésus. Moi, ce que je veux, c'est penser comme Jésus. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que tu veux dans ta vie? Moi, cette puissance que je sens en moi quand je suis dans la colère et que je juge l'autre, je n'en veux pas. Et à chaque fois, je me mets à genoux devant Dieu. J'en veux pas. Je veux, si j'ai à juger, je veux pouvoir juger en aimant. En aimant. Voilà, je ne vais pas continuer plus. On va prier. On va prier. Maintenant, on va continuer de laisser le Seigneur agir, la manière dont il veut agir. On va prendre la Sainte Cène. Et voilà ce que j'ai à cœur de vivre. Voilà ce que je reçois. Je disais que comment est-ce que on laisse cette vie de l'esprit gagner plus de terrain en nous? Comment on lui permet de gagner plus de terrain en nous et qu'on refuse cette puissance légaliste en nous? C'est par exemple quand on prend la Sainte Cène, voilà, on laisse Dieu nous parler, on laisse lui montrer des attitudes qui justement sont dans cette attitude légaliste, et là on lui dit écoute, j'en veux plus. Et moi, quand je prends le pain et le vin, je reçois ton esprit de grâce parce que tu es ressuscité. Cette puissance légaliste, elle est pour la mort et moi je suis pour la vie. Voilà ce que je vous invite à vivre dans la Sainte Cène. Et une autre chose, vous voyez comment Jésus il a confronté cet esprit légaliste, je vous disais, dans une attitude de foi. Lui, il a fait venir cet homme et il a prié pour lui. Il a vu qu'il y avait un besoin. Peut-être que tu as un besoin ce matin. Peut-être que tu as un besoin de guérison. Et pendant le temps de Sainte Cène, ceux qui ont besoin que l'on prie pour eux, je vous invite à vous avancer. Pendant qu'on distribue la Sainte Cène pour ceux qui, voilà, qui ne ressentent pas ce besoin-là et qui vont rester assis et qui vont prendre la Sainte Cène, à qui on va distribuer la Sainte Cène, vous, ceux qui ont un besoin de prière, vous vous avancez. Plusieurs personnes vont prier pour vous et vous prendrez la Sainte Cène après. Je suis désolé, hein, je déroge à la tradition. Ça va? Ça va aller? C'est bon? Hein? Alors je vais juste prier. Seigneur, voilà, on te remercie. Wow, on te loue, Seigneur, pour cette vie de l'esprit que tu veux déployer en nous, Seigneur. Oui, effectivement, nous, on veut reconnaître ce qui, dans notre vie, ne joue pas de notre part ou n'est pas de toi. Et ça peut être tellement subtil, Seigneur Dieu. Et vraiment, j'appelle maintenant ton esprit de révélation. Je te remercie, Saint-Esprit, de nous révéler à chacun ce qui, les attitudes, dans les comportements, dans notre cœur, qui ne sont pas de toi, qui sont attachés à des craintes, qui sont attachés à cette volonté de tout contrôler à notre manière, parce qu'il y a quelque chose de rebelle à toi. Et Seigneur, nous, on n'est pas, ça ne nous concerne plus ces choses-là. Nous sommes concernés par ton esprit de grâce. Et j'appelle vraiment ton esprit de grâce à nous remplir. Je te remets chacun ici, chacun d'entre nous. Tu vois, chacun, la démarche qu'il a à faire, que tu puisses aller plus loin avec chacun, Seigneur Dieu. Que ta vie de l'esprit maintenant imprègne encore plus chacun, qu'elle prenne encore plus de place, Seigneur Dieu. On veut aimer comme toi, on veut aimer comme toi. Et je te prie, mon Dieu, que tu conduises chacun. Je te remets les personnes qui ont un besoin, Seigneur, besoin de voir ta grâce à l'œuvre, qui ont besoin de recevoir ta guérison, Seigneur Dieu, quelle qu'elle soit, que ce soit physique, que ce soit dans l'âme. Seigneur, je te remercie maintenant de conduire ce moment dans le nom de Jésus. Amen.